J'ai rencontré le couperet de Costa Gavras en mars 2005 lors de sa sortie au cinéma.
Je sentais un pouvoir jubilatoire à lire les secrets de mes concurrents. Je découvrais qu'ils vivaient dans une ignorance abyssale.
Le synopsis du film est le suivant. Bruno Davert est un cadre très supérieur dans une usine de papier. Licencié avec quelques centaines de ses collègues pour cause de délocalisation, après 3 ans de chômage, il est prêt à tout pour retrouver un poste à son niveau, même à tuer ses concurrents.
Il n'y en avait que 5 qui, diplôme et carrière et surtout expérience, me paraissaient sinon meilleurs, mais aussi bons que moi. Une idée vertigineuse m'est venue.
Comme beaucoup de films de Costa Gavras, la critique française a majoritairement dénigré le film à sa sortie, en particulier la mise en scène. Il est reproché au couperet de sentir la thèse, un jeu d'acteur outré et manquant de réalisme, une mise en scène ou trop lisse ou trop appuyée, et pour finir, ce qui n'est pas sans paradoxe, d'appartenir au spectacle purement populaire. Je montrerai, au contraire, combien ce film est virtuose, tant sur le plan de la mise en scène que de sa construction narrative. Je montrerai aussi que les sens et les signes de ce film sont inépuisables, comme les cartes à jouer, et comme l'affiche du film, qui peuvent se retourner et se lire en double sens. Pour rendre compte des lectures possibles et surtout de la virtuosité du cadre et de la mise en scène, souvent oubliée dans le travail de Costa Gavras, j'analyserai la remarquable adaptation du roman américain de Donald Westlake. Je me demanderai s'il s'agit effectivement d'un film à thèse, pour ensuite montrer comment le genre du film oscille subtilement entre tragicomédie et thriller. Dans une seconde partie, la semaine prochaine, je m'intéresserai à la manière dont l'image télévisuelle et la publicité viennent dénoncer l'absence de morale. C'est tout d'abord une adaptation du roman éponyme de Donald Westlake. Le roman de Donald Westlake est souvent étudié et le film de Costa Gavras ne vient souvent qu'illustrer les analyses possibles du roman. Pourtant, ce qui me semble remarquable dans ce film, c'est la manière dont le scénario et l'image transposent un roman noir américain en un film noir français, et ce malgré une adaptation très fidèle du roman. Tout d'abord, le personnage change de nom et devient un cadre supérieur et franchouillard qui vit en périphérie de la ville. Costa Gavras filme non pas la banlieue, ces zones abandonnées délaissées pour compte, mais la périphérie, ces zones pavillonnaires à la fois laides et coquettes, où chacun possède une maison semblable à celle du voisin. Proche de centres commerciaux, tous identiques, auxquels on n'accède qu'en voiture, et où chaque famille se fournit en nourriture identique et même, on le voit dans le film, en plantes et décorations de jardin kitsch et toutes pareilles. Le film conserve aussi un narrateur interne à travers la voix off et l'idée de la confession. Il met le spectateur en état de voyeur et de complice qui voit tout quand la famille, la police, les passants semblent ne voir dans le personnage de Davert qu'un petit homme lisse, inoffensif et fade. Davert, à l'image, est toujours dominé physiquement par les autres.
Oh, c'est gentil, merci.
Hein. Ouais, faut s'entraider. Hein. Demain, c'est peut-être mon jour.
Oh, vous êtes un pilier ici.
Est-ce un film à thèse? Selon Jean-Claude Grimbert, co-scénariste du film, il s'agissait de montrer, et de relater surtout, le bout de la route de l'individualisme que nous sommes en train de vivre. Costa Gavras, lorsque nous l'avons rencontré, nous a répondu.
Bah, vous savez, il y a le mythe de Faust. Hein. Bruno, il donne son âme au diable pour avoir sa place. C'est-à-dire, il passe par-dessus toute éthique pour avoir sa place, pour avoir son bonheur de famille, etc. Voilà, voilà. C'est un sujet, moi, ce qui m'a semblé dans cette histoire-là, c'est un sujet qui, qui permet à réfléchir sur ce cas-là. Permet à réfléchir sur ce comportement-là, mais au-delà de cela, ça permet de réfléchir aussi sur ce qui se passe dans la vie, dans notre monde.
Il semble clair qu'il s'agit de donner à voir les limites de l'individualisme forcené et du capitalisme, où l'argent fait office de loi et de morale. En ce sens, il s'agit bien d'un film à thèse. Cependant, j'y vois davantage un subtil conte philosophique, comme ceux de Voltaire, où l'ironie alliée au cynisme permettent de dénoncer et de rire de l'insupportable miroir qui nous est tendu. J'ai remarqué d'ailleurs que le personnage se réfléchit très souvent dans des miroirs tout au long du film et qu'il contemple souvent son reflet tel un narcisse. Il est intéressant de relever que le film a eu des difficultés à être financé. Les éventuels producteurs craignant, selon les dires de Costa Gavras dans les bonus du DVD, de perdre leur place, étant eux-mêmes sous la menace du couperet, et prêts à tout pour la conserver. Perdre son travail est synonyme dans notre société de perdre sa vie, et plus particulièrement, le sens de sa vie. C'est ce que nous a dit Costa Gavras quand nous l'avons rencontré.
Parce que l'assassinat dont on parle, dites-vous bien, quand quelqu'un, peut-être vos parents ou quelques proches, perd son travail, c'est d'une certaine manière, c'est un assassinat. Ce n'est pas un assassinat physique, mais c'est un assassinat moral. Parce qu'on a établi une sorte de vie avec une famille, etc. Et tout d'un coup, tout s'écroule parce que quelqu'un, pour des raisons X ou Y, et en général, pour des raisons de rentabilité d'une grosse compagnie ou d'une entreprise plus petite, ben, c'est pour gagner plus d'argent. Et en général, vous gagnez, fait, à gagner plus d'argent à ses actionnaires. Bon, je ne parle pas des entreprises qui font faillite parce qu'ils n'ont pas des clients, etc. Mais d'une manière générale, la plupart des licenciements qu'on voit aujourd'hui, c'est pour faire gagner plus d'argent aux actionnaires. Donc, quelques-uns profitent avec l'assassinat, entre guillemets, de beaucoup d'autres. C'est ça le sens du film, si vous voulez. C'est ça qui m'a persuadé à faire ce film.
On sait trop combien les chômeurs, terme péjoratif qui implique un choix personnel, sont désignés à la vindicte et culpabilisés. Au contraire, le travailleur serait celui qui réussit sa vie pleinement et totalement, tant sur le plan social qu'affectif. Le film, par petites touches, donne à voir combien cet idéal est une fiction mortifère.
Seulement j'ai un plan. Si je perds mon boulot, je monte au bureau, je me tire une prune dans le citron devant eux. Et pourquoi vous ne tirez pas une prune dans le citron d'un des deux autres ?
Le couperet est tout d'abord un thriller qui maintient le spectateur dans un double et curieux état d'angoisse, à la fois pour le tueur auquel il s'attache et pour ses victimes auxquelles parfois il s'attache, mais qu'il a aussi honte de détester. En effet, le terme thriller, en anglais « qui donne des frissons », est une espèce de catégorie au contour très imprécis. Est souvent baptisé thriller tout roman, pièce ou film qui, pour toucher lecteur ou spectateur, s'attache avant tout à déclencher en eux des émotions ou sensations fortes, aussi nombreuses et intenses que possible. Le thriller est à l'origine un récit policier qui s'écarte radicalement du traditionnel roman à énigmes, dans lequel un personnage mène une enquête minutieuse. Un sentiment de malaise nous poursuit, tant dans la traque des victimes que dans la traque du tueur. Comme le déclare Costa Gavras dans le dossier de presse du film, c'est toute l'idée du conte amoral. Il est d'autant plus amoral que la moralité du personnage à la fin ne nous le fait pas rejeter. J'espère que le lecteur sympathisera avec lui dans un premier temps. Dans un deuxième temps se dira « Mais diable, pourquoi je sympathise avec lui ?» Alors le film aura joué son rôle, celui d'un spectacle à l'intérieur duquel un personnage exceptionnel nous conduit au plus profond de nous-mêmes et nous met en perspective dans cette société où nous sommes à la fois acteurs, spectateurs, victimes et bénéficiaires.
La peur de mourir, c'est quand même, la peur de mourir, c'est une abstraction parce qu'on ne sait pas ce que c'est que la mort. On a peur de mourir, voilà. Et puis ils vous disent, moi je mourrai pour ma patrie. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est des paroles. Personne ne veut mourir. On peut se battre pour sa patrie, mais non pour mourir, parce que ça ne sert à rien de mourir finalement. On ne va pas la sauver. Là. L'idée de la mort, c'est quelque chose de très, très, très abstrait. C'est, quand vous arrivez à un âge plus avancé comme le mien, là, la mort sera plus présente, donc vous penserez plus. Mais c'est aussi un fait unique et total dans la société, il faut vous habituer.
En plus d'être un thriller, le film ose mélanger le tragique et le comique. La première scène de meurtre, montrée à l'écran, en vérité ce n'est pas la première, mais celle qui déclenche la confession, est purement grotesque. Sur le fil du comique, dit Costa-Gavras. En effet, la première vision du meurtre montre le visage écrasé et grotesque de la victime sur le pare-brise de Davert. Ensuite, les images qui montrent la manière dont il termine sa victime font rire et crier en même temps. Tous les éléments du film noir et de la tragicomédie, au sens moderne du terme, se mélangent dans un dosage subtil qui fait que le film ne bascule jamais vers la comédie trash. Nous avons demandé à Costa-Gavras pourquoi le héros était si malhabile.
Parce qu'il n'est pas assassin. Il n'est pas assassin. Vous savez, imaginez-vous que vous allez tuer quelqu'un. Comment vous y prenez ? Il faut avoir un pistolet, alors on retrouve un pistolet. Bon, le pistolet ne marche plus ou on l'a jeté, je ne sais pas quoi. Il faut prendre un couteau. Comment piquer quelqu'un avec un couteau ? Et où ? Donc tout ça, c'est de la maladresse. C'est vrai, il y a des vrais assassins qui savent utiliser et les couteaux et les pistolets. Donc ceux-là n'ont pas de problème, ils visent là où il faut, c'est fini. Mais lui, c'est pas un assassin. Donc il s'est fait assassin par nécessité. Une nécessité qui crée lui. Parce que c'est aussi une réflexion sur... nous-mêmes, est-ce qu'on accepte un jour, à partir du moment où on est arrivé à un certain niveau de vie, est-ce qu'on accepte de baisser son niveau de vie, de vivre autrement ? Eh bien, c'est très difficile.
Qu'est-ce qui permet de ne pas tomber dans une comédie trash ? C'est d'abord la distance dans la narration qui permet de ne pas tomber dans le comique. Narration qui vire presque au fantastique tellement il est impossible qu'il ne se fasse pas prendre tant il y a de témoins partout, tout le temps, même dans les bois. Des situations qui pourraient être comiques, comme manquer de se tirer dans le pied quand il s'entraîne, être surpris et ailé par des militaires, être arrêté par un gendarme mobile au casque improbable couvert de copeaux de papier du CV de la dernière victime, sont en réalité éprouvantes pour le spectateur. Le personnage principal est poursuivi par des témoins qui ne veulent pas voir le meurtrier à l'œuvre et les mains pleines de sang. Il y a donc cette distance dans la narration, doublée par l'aveuglement des témoins, mais il y a aussi une distance de l'image elle-même. En effet, quand le personnage s'entraîne au tir, le personnage est vu d'une hauteur improbable, comme si une caméra de surveillance filmait. Il s'entraîne dans les bois. Puis quand il manque de se tirer sur les pieds, la caméra se tient à distance et le personnage est souvent de dos. Quand il aperçoit des militaires, la caméra est loin des personnages. Il est caché, il domine le groupe et bien assez loin pour fuir ce qu'il fait. Ensuite, en ce qui concerne le moment où il est arrêté par le gendarme couvert de CV, Costa-Gavras lui-même dit dans les bonus du DVD que pour ne pas basculer du côté comique, il a choisi sciemment d'être loin du personnage et de ne pas voir la réaction de face du tueur. De même, le personnage semble sans cesse vouloir prendre du recul, s'expliquer qu'il n'a pas le choix, que ce n'est pas pour lui qu'il fait ça, mais pour sa famille, qu'il veut préserver de la misère et de la séparation. Il finit même par se convaincre, après des errements et des souffrances, qu'il n'est pas coupable. Moi, je l'ai connu Clyde, autrefois. C'était un gars loyal, honnête et droit. Il faut croire que c'est la société qui m'a définitivement abîmé. Paroles de Bonnie and Clyde de Serge Gainsbourg. Contrairement à Clyde, le tueur en série est recherché mollement par la police. Les policiers semblent d'ailleurs désirer à toute force ne pas vouloir mettre la main sur l'arme du crime, dont ils savent pourtant, grâce aux douilles, que c'est une vieille et lourde arme. Quand ils se retrouvent en situation de pouvoir appréhender le tueur, qui fait résonner à plusieurs reprises son arme métallique contre le mur, mal cachée dans la poche de son manteau, ils semblent résolus à ne pas fouiller, soupçonner. C'est comme si les crimes commis devaient rester impunis. On se prend à penser que la société tout entière ne les considère pas comme tels. Ce serait simplement l'application de la libre concurrence devenue loi naturelle. Le dernier personnage que croise Davert et sur lequel l'image finale se fige est qualifié de prédatrice dans le générique final. On peut dire aussi de Davert que c'est un prédateur, au sens où il chasse non par haine ou ressentiment, mais pour sa propre survie et la survie de son espèce, obéissant à la loi de la sélection naturelle. Le lion, comme le fait remarquer Costa Gavras, n'a pas de haine pour le zèbre, il veut simplement son beefsteak.
Le film vous appartient, une fois sorti, vous faites ce que vous voulez. Vous en parlez ou vous pensez à autre chose. Et si vous commencez à vous en parler, vous pouvez arriver peu à peu à une discussion un peu plus approfondie sur le problème du chômage, sur le problème de la pauvreté, etc., etc.
À la semaine prochaine pour la suite de mon analyse du couperet de Costa Gavras.